Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, est-ce comme Sirk, Douglas Sirk, le prince désenchanté du mélodrame flamboyant, avec Denis Rossano, Charlotte Garçon et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième volume de l'encyclopédie vivante du cinéma après un été qui, je l'espère, vous aura été profitable. Il a donné ses lettres de noblesse au mélodrame en sublimant ses intrigues sentimentales et improbables de romans photo en de foudroyantes tragédies grecques. Il équilibrait subtilement une profonde empathie pour ses personnages et une distance critique et raffinée par la mise en scène et l'utilisation comme personne des couleurs et de la lumière dans une sorte de néo-expressionnisme quasi baroque. Ce qui m'enchante chez Douglas Sirk, écrit Jean-Luc Godard il y a 60 ans, dans un texte resté fameux des larmes et de la vitesse, c'est ce délirant mélange, Moyen-Âge et modernisme, sentimentalité et raffinement, cadrage anodin et cinémascope endiablé. La seule logique dont Douglas Sirk s'embarrasse, c'est le délire. 25 ans plus tard, Fassbinder ira encore plus loin. Peu importe Godard, Fuller, moi ou un autre, aucun de nous ne peut arriver à la cheville de Douglas Sirk, écrit-il. J'ai vu 6 films de Douglas Sirk. Parmi eux, il y avait les plus beaux du monde. Et aujourd'hui, c'est un Todd Haynes qui, de Loin du paradis à Carole, revisite insatiablement l'univers de l'auteur du secret magnifique décrit sur du vent et de Mirage de la vie. Ce qu'on sait moins, c'est que sa vie était aussi romanesque et tragique que ses films. Douglas Sirk, américain virtuose du cinéma populaire, était aussi l'allemand Detlef Zirk, intellectuel élitiste, réalisateur du cinéma nazi, marié à une actrice juive, homme déchiré et père sans enfant, au point qu'en cette rentrée littéraire, il est lui-même devenu un personnage de roman, un père sans enfant, sorti il y a 2 jours et dont l'auteur Denis Rossano est notre invité aujourd'hui dans Plan Large. À ses côtés, la très sirkienne Charlotte Garçon et Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, qui en fin d'émission nous racontera le tournage pour le moins mouvementé d'Apocalypse Now il y a 40 ans à l'occasion de la sortie en salle d'une version remasterisée et remontée encore une fois du chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Mais pour l'heure, retour aux origines dans les régions marécageuses de l'Allemagne du Nord, quelque part entre Brême et Hambourg.
Honey, seat my bus.
Il ne faudrait pas se laisser leurrer par le ton prime sautier de cette scène d'enterrement de vie de garçon dans un estaminet villageois. Le film est complètement tragique, même si loi du genre oblige, il se terminera par un happy end. On va en reparler des happy ends chez Sirk. C'est La fille des marées, le deuxième long métrage, alors non de Douglas Sirk, mais d'un certain Detlef Zirk. Il n'a pas encore pris son nom hollywoodien de Douglas Sirk. Et pour cause, on est en Allemagne, on est en 1935. Les auditeurs les plus réguliers de l'émission se souviendront peut-être qu'on a déjà diffusé un extrait de ce film dans Plan Large. C'était l'an dernier, on était au Festival de Berlin et on avait consacré toute une émission à la UFA, la major allemande qui voulait concurrencer Hollywood et qui arrivait d'ailleurs assez souvent avant de se mettre bon gré et mal gré à partir de 1933 au service du pouvoir nazi. Denis Rossano, votre roman Un père sans enfant, on dévoilera dans un instant, hein, on va laisser traîner le suspense, ce que signifie l'oxymore de ce titre. Ce roman, c'est le fruit d'une longue passion que vous avez pour le cinéma de Douglas Sirk et surtout d'une suite de rencontres tout à fait privilégiées avec le cinéaste retraité quelque part en Suisse, sur les rives du lac de Lugano, si je vous ai bien lu, cinéaste presque aveugle au moment où vous le rencontrez. Il faudrait rappeler tout d'abord, et Sirk vous l'a longuement raconté, dans quel contexte il fait ses premiers pas au cinéma. Il est un metteur en scène de théâtre très réputé, très célèbre. Il est proche des milieux de gauche quand les nazis arrivent au pouvoir. Il a même monté l'opéra de Katsu, par exemple. Et puis, donc, quand les nazis arrivent au pouvoir, lui, il ne va pas quitter le pays. Il va se réfugier dans le milieu du cinéma. Le cinéma, parce qu'il pense qu'il est plus à l'abri, qu'il est moins dans le collimateur des nazis, s'il fait du cinéma, Denis Rossano.
Oui, bonjour Antoine, et merci de m'accueillir. Je voulais vous corriger.
Ah, j'adore quand on corrige.
Toute la partie... C'est un roman. Oui. Tout est vrai sur ce que je raconte sur Douglas Sirk, sur l'histoire de son fils, sur lui. La rencontre ne s'est pas passée entre moi et Douglas Sirk. C'est une mise en scène de l'enquête que j'ai faite et de toutes les recherches.
Ah ben vous
voyez,
on y croit en tout cas.
C'est bien. Mais c'est marrant parce que beaucoup de personnes me posent la question. Donc je me dis, bon, j'ai réussi quelque part. Donc Douglas Sirk, qui est Dudley Sirk à l'origine, a été un des plus grands metteurs en scène de théâtre de l'Allemagne de Weimar. Il a connu les plus grands intellectuels, très ami avec Bertolt Brecht notamment. Il a suivi les cours d'Einstein, il a donc étudié la relativité. Il a étudié avec un professeur d'histoire de l'art, Erwin Panofsky, qui était très très important, notamment qui disait que le cinéma s'inscrit dans la tradition iconographique de l'art médiéval. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre de Douglas Sirk. Et effectivement, alors au moment de l'arrivée au pouvoir des nazis, le théâtre, dépendant financièrement de l'État, est immédiatement dominé par le nazisme. Et donc Detlef Sirk décide... Très curieusement d'ailleurs, parce qu'il aurait pu partir, il décide de rester. Dès 1933, cependant, la mainmise par Goebbels, qui est le ministre de la Propagande, sur le cinéma allemand, et notamment sur la UFA, qui est un studio colossal, qui est vraiment l'équivalent des studios américains, et c'est immédiat. Et notamment, tous ceux qui participent au cinéma, les réalisateurs, les acteurs, les scénaristes, ça, sont obligés de passer... ce que je dirais des tests, en fait, prouvant qu'ils sont ariens, prouvant qu'ils n'ont pas de sang juif, donc tout ça. Et par ailleurs, les films... Il y a différents niveaux par lesquels la censure s'établit, et ce qui fait que les films deviennent nazifiés d'une certaine manière. En même temps, Goebbels est très malin. La propagande est partout en Allemagne à cette époque-là. Elle est partout, à la radio, dans la rue, partout. Et il a compris que le cinéma devait rester un espace de liberté pour le public. Et donc, en fait, il y a tout un groupe de cinéastes qui sont soit apolitiques, soit socialistes. Sirk était socialiste, il était vraiment très très engagé socialiste, qui décide, on va faire du cinéma, on va être dans notre petite bulle hors de la politique nazie, et on va faire les films qu'on veut. C'est malheureusement un peu un piège, parce qu'en fait, Goebbels sait très bien que cette espèce de petite bulle, en fait, participe au régime, en fait. Elle n'est pas contre le régime, en fait, elle fait partie du régime. Et donc, en fait, ces cinéastes-là tombent dans le piège.
Et de fait, ce film, La fille des marées, je crois que vous avez découvert pour l'émission, Charlotte Garçon, est tout à fait nazi-compatible d'une certaine manière, puisqu'il participe au mythe de la terre et du
Absolument.
Sol. Il chante les vertus de la paysannerie du nord de l'Allemagne. Hein, ici, c'est adapté d'un roman suédois de la première femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature, Selma Lagerlöf, mais c'est transposé. Et en même temps, Douglas Sirk découvre là son genre qui va être son genre de prédilection, évidemment, qui est le mélodrame, Charlotte Garçon.
Oui, je comprends l'idée du cinéma, effectivement, un peu nazifié malgré lui, et cette idée de Heimatfilm, de film célébrant le pays natal, mais il me semble quand même que La fille des marais échappe aussi à cela, dans son côté un peu dreyerien.
Oui, absolument.
Influence revendiquée.
Renoir aussi, beaucoup de Renoir.
Et puis, si on a vu La fille de la tourbière de Victor Sjöström, qui passait il y a peu au Festival de La Rochelle, c'est un remake, on pourrait dire, un remake en tout cas. C'est adapté de la même histoire. Donc le film a déjà, et c'est un film magnifique, La fille de la tourbière. Donc, voilà, cette histoire, elle n'est pas appropriable complètement par la période. Heureusement, elle existe aussi parce que c'est une histoire morale. C'est une aventure morale de ce héros. Et ce jeune fermier assez riche ne voit pas que la servante qu'il embauche pour des raisons morales est en fait celle qu'il va aimer. Et donc, c'est déjà aussi une histoire d'aveuglement amoureux, on pourrait dire. Donc, il me semble que Sirke trouve, même sans le savoir, en tout cas, quelque chose qu'il va ensuite développer aussi.
Premier grand personnage féminin chez Sirke, il y en aura d'autres.
So wie ich hier stehe, so bin ich nun eben, yes sir. Die Schönheit ist mir nicht umsonst gegeben, no sir. Die tausenden kleinen Pikanten, die Störchen, die leise gerauten Alkoven, Märchen, die sind nicht umsonst mir angedichtet. Denn auch ein schlechter Ruf verpflichtet die yes, sir. Yes, sir. So bin am ganzen Leib ich, so bin ich und so bleibe ich. Yes, sir. Yes, sir.
Skandal. Fast nichts hat sie an.
So. Und von Glas gefällig, Sir.
Und muss ich mein irdisches Gastspiel beenden? Yes, Sir.
Alors non, ce n'est pas Marlène Dietrich qui chante, même si la scène fait beaucoup penser à la première apparition de Lola Lola dans L'Ange Bleu, autre pure création de la Oufa, avant l'arrivée des nazis. Et c'est pas pour rien qu'on pense à Marlène, puisque ni elle ni Greta Garbo ne veulent tourner en Allemagne nazie. Il faut se fabriquer une nouvelle star maison à la Oufa. On va prendre la même méthode qu'à Hollywood, dans La Machine à rêve. On va construire ex nihilo une star, et ça sera la Suédoise Sarah Leander, celle qu'on vient d'entendre, et celui qui la façonne dans ce film qui s'appelle Parramatta, bagne de femme en 1937, sont des murs chez Detlef Zirk de Niro Sano.
Oui, alors Sarah Leander est l'icône la plus célèbre du cinéma nazi, une star internationale qui aujourd'hui encore reste très très célèbre en Allemagne. Ses chansons continuent à passer, elles sont reprises constamment, c'est vraiment une idole. C'est aussi un des personnages les plus controversés de l'histoire du cinéma allemand, et de fait parce qu'elle est devenue l'égérie en quelque sorte du cinéma nazi. Même si elle s'en est défendue énormément, elle a toujours dit qu'elle avait été apolitique, elle avait beaucoup d'amis homosexuels qui étaient les ennemis du régime, elle a refusé de prendre la nationalité allemande, et pourtant elle a quand même profité des faveurs du régime.
Donc, elle reste en Allemagne jusqu'en 1943, absolument. Hein, quand sa maison se fait bombarder, exactement. Et là qu'elle se dit faudrait peut-être, ça devient peut-être un peu dangereux.
Au dernier moment. Et c'est Detlef Zirk, donc, qui littéralement la crée. Alors évidemment, elle a sa personnalité, elle a sa voix qui est très unique, mais c'est lui qui en fait une star. Il crée le personnage à partir duquel le mythe de Sarah Leander va s'établir dans toute l'Allemagne et même dans toute l'Europe, en fait. Et il faut avouer, c'est une comédienne étonnante qui a une présence à l'écran. C'est une star. Et Sirk l'a compris immédiatement, en fait. Il l'a rencontrée à Vienne et il a compris qu'il avait là une star. Et c'est ce qu'il a décidé de faire.
Et il va dire d'elle qu'elle avait, plus tard, hein, quand il parlera d'elle, il dira qu'elle avait une très grande féminité, mais que derrière, elle était comme un mec. Est-ce qu'on a déjà un personnage féminin complètement sirkien dans ces films, Charlotte Garçon?
Alors, déjà,
elle va faire la Habanera avec Detlef Zirk juste après. Deux immenses succès.
Hein, succès colossaux, oui.
Le premier geste quand même important, il me semble, dans ce film de la part de Detlef Zirk, c'est qu'il fait du personnage féminin le personnage de premier plan du film. Alors que si on se souvient de L'Ange Bleu, le personnage principal, c'est l'homme qui tombe amoureux de Lola, qui est au centre. Donc Sternberg, dans sa période allemande, 1930, n'a pas osé aller aussi loin, en quelque sorte, que Douglas Sirk, même si, vu aujourd'hui, ce film nous apparaît effectivement. Et Sarah Leander nous apparaît comme une sorte de sous-Garbo, parce qu'elle lui ressemble un petit peu. Et de sous-Marlène quand elle chante. Donc ce qui me semble important, c'est que le personnage féminin et ce qui lui arrive, son destin, ou ce qu'elle prend en main, et qu'elle chante aussi dans cette idée un peu de Kurt Weill, de chanter au moment clé du film, est vraiment le personnage de premier plan. C'est-à-dire que les femmes sont vecteurs d'émotions au cinéma. Et ça, Douglas Sirk est quand même le cinéaste qui a le mieux mieux développer ça par la suite.
Alors dans ces films, il y a des femmes au premier plan, il y a des enfants au second plan. Alors parfois dans La fille du marais, on parle beaucoup de cet enfant qu'on ne voit jamais. Dans La Habanera, il y a un fils là qui compte beaucoup plus. Alors expliquons tout de suite, Denis Rossano, enfin ce que signifie ce père sans enfant, parce qu'au moment où Detlef Zirk remporte de grands succès, qui fait la une des journaux, parfois la même semaine que lui dans les journaux de cinéma, c'est un certain Klaus Detlef Zirk, c'est-à-dire son fils, qu'il n'a plus vu depuis qu'il avait l'âge de 3 ans, hein, je crois. Enfin, ils sont issus d'un premier mariage et qui est en train de devenir un enfant star du cinéma nazi.
Voilà, c'est une histoire absolument incroyable. Detlef Zirk était marié avec une actrice allemande dans les années 20. Ils ont eu un enfant qui est né en 1925. Ils ont divorcé. Cette actrice est devenue une nazie forcenée. Elle a adhéré au parti dès 1929 et elle interdit au père, à Detlef Zirk, de voir son enfant. Detlef Zirk, pendant ce temps, se marie avec une actrice juive de théâtre. Donc,
Hilde Yari.
Absolument. Et donc, la première femme lui en veut d'autant plus. Il se lance dans le cinéma et elle décide de lancer son enfant. Alors, l'enfant est très beau. C'est un petit arien parfait. Il est très mignon. Et elle décide d'en faire une star de cinéma. Et il devient, petit à petit, très jeune, il commence très jeune, un espèce d'enfant idéal du cinéma nazi. Alors d'abord dans des petits rôles, mais petit à petit les rôles grandissent. Et effectivement, Detlef Zirk est horrifié au départ quand il voit ça. Son enfant, qu'il n'a pas le droit de voir, avec lequel des fois ils sont sur des plateaux l'un côté de l'autre, et ils n'ont pas le droit de se voir. Il est absolument déchiré. Et il voit son enfant devenir une espèce d'idole, de symbole, en fait, de l'enfance nazie.
Est-ce que c'est la raison, selon vous, pour laquelle Detlef Zirk mettra autant de temps à quitter l'Allemagne nazie? Il va partir en 1938.
Hein, 38,
oui. Il me semble. Pourquoi est-ce qu'il est resté? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? Alors, c'est une question qu'on se sera posée pendant toute sa carrière.
Absolument. C'est très ambigu. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une des grandes raisons. Jusqu'à la fin, il pensait sauver son enfant, l'arracher aux nazis et pouvoir le ramener avec lui, l'enlever. En même temps, je pense que c'était aussi, il était carriériste. Il était très ambitieux. Il voulait réussir. Il savait que s'il avait quitté l'Allemagne en 1933, comme Fritz Lang, comme Peter Lorre, comme beaucoup de personnalités du cinéma allemand, ça aurait été très difficile pour lui de recommencer. Venant du théâtre, il était vraiment inconnu à l'étranger. Donc, il s'est dit, je vais d'abord faire carrière en Allemagne, je vais devenir un grand réalisateur en Allemagne, et à partir de là, me basant sur mon savoir, je referai carrière à l'étranger. C'est un peu un piège, en fait. Il est tombé dans la gueule du loup, parce que je crois aussi que, comme beaucoup de gens à l'époque, ils pensaient pas que le nazisme allait durer. Ils pensaient qu'au bout d'un ou deux ans, ça allait s'écrouler. Et non. Et donc, du coup, il est prisonnier, d'autant plus qu'il est marié à une actrice juive.
Alors, on lui explique, effectivement, qu'il est tout à fait destiné à devenir le cinéaste du régime, à condition, toutefois, qu'il se sépare de cette encombrante épouse juive. Voilà. Il refuse. Alors, on va accélérer un peu le mouvement. Il va quitter l'Allemagne, prétextant des repérages de films à l'étranger. Il passe par la Suisse, par la France. On va lui proposer de faire la version longue de Partie de campagne de Jean Renoir. Il va refuser. Il va aux Pays-Bas. Il arrive enfin à Hollywood. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas accueilli à bras ouverts là-bas, ni par les studios, même si la Warner voulait faire au départ un remake de Paramatta, Bagne de femme. Le film ne se fera pas. La communauté des Allemands à Hollywood ne comprend pas ce que ce cinéaste nazi, pour eux, pour le coup, vient faire ici. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever des poulets. Oui. il va faire pousser des avocats.
Mais il a beaucoup aimé, apparemment.
Oui, il dit que c'est les meilleures années américaines. Bon, voilà, on va accélérer un peu le mouvement. Il va faire du cinéma et puis arrivent les années 50, magnifiques pour Douglas Sirk.
For your help.
Sure.
I didn't know anyone else was here. Do you come to the Cove often?
Well, lately a little. I've noticed you and Judy a few times.
Well, I'm Mrs. Phillips. And I hope any friend of Judy's is a friend of mine.
How do you do, Mrs. Phillips?
And you're?
My name's Robinson.
Well, you know, it's a bit chillier than I thought. Oh, dear, I'm sorry, but would you help me find my shawl? I don't see.
Of course.
I'm very awkward, I guess, but Judy's a wonderful builder-upper.
I don't think anybody could come through any better than you have, Mrs. Phillips. After all, with a subdural hematoma like yours.
Why, that's where I've met you, at the hospital. You're a doctor.
No, we've never met. I know a little about medicine. I studied to be a surgeon once.
But I have heard your voice, haven't I?
I don't think so, Mrs. Phillips. Is there anything else I can do?
No, thank you. I'm very comfortable.
Mrs. Phillips, I wonder, would it be all right if I came by occasionally?
Just for launching outboards and general morale purposes. I hope you won't think I'm imposing.
Well, of course not. We'll hope to see you again very soon.
Yes, soon. Goodbye.
Goodbye.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Douglas Sirk avec Denis Rossano, Charlotte Garçon et Fernando Ganzo. Bah, je l'ai dit, on a sauté dans le temps et largement puisqu'on est en 1954. Maintenant, Douglas Sirk travaille pour la Universal. Il a eu une expérience assez malheureuse à la Columbia de Harry Cohn. Et puis, en bon cinéaste de studio, alors on le connaît pour ses mélodrames, mais il va œuvrer en fait dans beaucoup de genres du cinéma hollywoodien. Il va faire du film historique, du film criminel, il va faire du western, même un péplum avec des 1, mais c'est donc dans le mélodrame, comme en Allemagne, qu'il va se réaliser pleinement, avant même le secret magnifique dont on vient d'entendre un extrait. Il y a ce très beau All I Desire qui est en noir et blanc, celui-là, avec Barbara Stanwyck. Mais surtout, à la Universal, il va rencontrer un acteur dont le studio ne sait pas trop quoi faire. Il est très grand, il est très beau, il est très, très baraqué, une vraie armoire à glace. Mais celui qui va en faire une star, là encore, c'est Douglas Sirk. Il s'agit de Rock Hudson, qu'on vient d'entendre dans cette scène avec Jen Wyman. Et selon vous, Denis Rossano, puisque l'histoire de ce fils est l'angle avec lequel vous observez la carrière de Douglas Sirk, pour Douglas Sirk, Rock Hudson, c'est un fils de substitution. C'est son enfant fictif, écrivez-vous.
Absolument. Alors, on est donc début des années 50. Detlef Sirk, Douglas Sirk, est allé en Allemagne en 49. Il a essayé de retrouver son fils.
Ça, on va y retrouver. On va en parler jamais... tout à l'heure avec un film qui l'évoque directement.
Absolument. Et effectivement, je pense que le déchirement de n'avoir jamais pu retrouver son fils, la culpabilité qu'il a ressentie, transforme cela en une espèce d'obsession qu'il a. Et son fils va l'accompagner, son fils absent, va l'accompagner tout au long de sa carrière. Et il rencontre Rock Hudson, qui est une petite star, je dirais, un acteur de série B, qui fait des westerns, des choses comme ça, qui est considéré comme un très mauvais acteur, en fait, par le studio. Mais Douglas Sirk le voit et... comme il l'a fait avec Sarah Leander, il sait qu'il tient là quelqu'un qui peut devenir une très grande star. Le fait est que Rock Hudson est né exactement la même année que son fils, à quelques mois près, en 1925. Et il va s'établir entre deux une relation filiale de père et de fils, de fils et de père, dont Rock Hudson va même parler parce qu'il dit que Douglas Sirk était pour lui comme un old pa, c'est-à-dire un père en fait, il le dit lui-même. Ils vont faire 9 films ensemble, ce qui est même une des plus intenses collaborations qu'on ait vues au cinéma, dans le cinéma américain. Et son premier grand rôle, c'est effectivement Le Secret Magnifique, où il joue en face de Jen Wyman. C'est Jen Wyman qui voulait faire le film. D'abord, le projet vient d'elle, qui est un remake d'un film très célèbre des années 30.
De John Stahl.
C'est du mélo délirant. C'est du mélo absolu avec une espèce de mysticisme très bizarre.
Des rebondissements absolument improbables.
Mais Sirk adore ça. En fait, il embrasse, il le dit lui-même, il a embrassé le côté kitsch, le côté presque trashy, la folie même du mélodrame, pour à la fois porter un regard ironique sur le mélodrame, mais sans jamais se moquer des personnages. Il les rend très, très, très crédibles, en fait. Et il apporte une immense empathie sur ces personnages, et notamment sur les personnages féminins, sur le personnage de Jane Wyman. On croit en son personnage, on est ému par... Elle est aveugle, à un moment dans le film. Il faut dire que Douglas Sirk va lui-même devenir aveugle. Donc là aussi, il y a une ironie qui se joue. Et je terminerai en disant qu'il y a un truc assez incroyable, et c'est là où on retrouve le père et le fils. Il y a un personnage dans le film qui est joué par un acteur, Otto Kruger, qui ressemble, qui est vraiment presque le sosie de Douglas Sirk, et qui joue dans le film une espèce de père qui va aider et soutenir Rock Hudson. Il y a une scène incroyable dans une salle d'opération où le père regarde son fils. C'est absolument étonnant, et c'est vraiment Douglas Sirk qui se met en scène lui-même, protégeant son fils.
My, 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 my hero, V.I. How he fly all around the town. I, every passerby, he look her up, he look her down. Ooh, ooh, lady, what a pleasant view. Ooh, I make the flirty eye at you. My, no more roll V.I., no more fly all around the town. Not since I find a passerby, she look at me up, me look at her down. She and me, we go to town.
C'était Rock Hudson au piano et à la voix. C'est tout ce que le ciel permet en 1955. C'est un film qui est tourné donc immédiatement après Le Secret Magnifique, qui a remporté un immense succès à la surprise générale. Donc on prend les mêmes et on recommence. Sauf que les rôles sont assez inversés dans ce film. Les fins d'ailleurs sont presque symétriques. À la fin du Secret Magnifique, c'est Jane Wyman qui est allongée, Rock Hudson qui veille sur elle. Et on renverse ça à la fin du film. C'est un grand film anticonformiste. Tout ce que le ciel permet, Charlotte Garçon. C'est un film extrêmement critique, en tout cas, sur la société américaine.
Oui, en tout cas, le film commence avec des plans sur la Nouvelle-Angleterre domestique de l'ère Eisenhower, hein, les belles voitures, couleurs pastel, les belles maisons, etc. Donc on sent qu'il y aura cette dimension de critique sociale, de cette jeune veuve que tout le monde veut enterrer, veut mettre au tombeau. Et de fait, dans le travail des décors et des couleurs, il y a quelque chose de cet ordre, puisque sa chambre à coucher a une espèce de fenêtre improbable qui ressemble à un vitrail dont la lumière va se décomposer sur son visage à un moment dans une scène avec sa fille. Donc effectivement, on sent qu'il filme cette société comme possiblement qui décompose les sentiments. En même temps, c'est ce que disait Denis Rossano, ça n'est pas une satire de cette société. C'est-à-dire qu'à mon avis, il n'aurait pas été un aussi grand cinéaste s'il n'avait pas aussi montré la séduction, le confort, la quiétude que cela apporte vraiment sentimentalement aussi à des gens d'être socialement intégrés. Donc c'est un arrachement que de tomber amoureuse d'un homme plus jeune et d'une classe sociale inférieure. Et il fait vraiment ressentir cela dans ce film, c'est aussi ce qui est beau. De même que dans Le Secret Magnifique, on voyait les plus belles couleurs quand la femme devenait aveugle. Ici, il y a tout un travail chromatique sur les saisons, le passage des saisons, et la rencontre se fait entre Rock Hudson et Jane Wyman autour d'un rameau d'or, autour d'une discussion sur une plante, et puis il va lui ensuite vendre des sapins de Noël, et il va être question aussi des différentes couleurs de sapins. Donc on a une transition très douce finalement entre l'aspect social et de critique sociale du film et quelque chose qui serait autre, qui serait le côté Henry David Thoreau, c'est-à-dire le rapport à la nature, puisque cet homme, ce pépiniériste, est en fait une sorte d'Adam américain, comme on dit, ce personnage mythique de l'Amérique, de l'individualisme philosophique américain.
Un sœur que dira d'ailleurs que le film en fait est une adaptation de Walden, le fameux livre de Thoreau sur cette cabane qu'il avait construite au bord d'un lac et qu'on voit construite dans ce film. Et on a dans ce film ce qui va faire la signature aussi stylistique de Douglas Sirk, que là qu'on voit de manière très frappante, les fenêtres dont vous avez parlé, les miroirs, que de miroirs chez Douglas Sirk, dont ce reflet absolument glaçant dans un poste de télévision, toute une profondeur de l'image, des objets, des décors symboliques, des parois qui vont venir s'interposer entre les personnages. La mise en scène, selon Douglas Sirk, c'est par là qu'il s'exprime, beaucoup plus que par ces scénarios dont on a dit l'extravagance par moment.
Absolument, et d'ailleurs, il a dit... les angles de la caméra sont la pensée du réalisateur et la lumière est la philosophie du réalisateur. Et quand on sait ça, on comprend en grande partie la manière dont les films de Douglas Sirk sont conçus. C'est extraordinaire dans tout ce que ciel permet, la manière dont les intérieurs sont filmés, l'intérieur notamment de la maison de Jane Wyman, c'est une prison. Elle est emprisonnée par le paravent, par la fenêtre. Le seul endroit où la fenêtre s'ouvre sur le monde, c'est la fenêtre de la cabane.
On pourrait dire que c'est presque une figuration du cinéma, parce que la fenêtre ouvre sur le monde, alors que la télévision dans laquelle elle va se refléter l'enferme.
L'enferme, il isole, c'est la solitude absolue.
C'est le miroir, mirage de la vie, dont parle
absolument
de ta sœur.
Et c'est un personnage... Ce que je trouve très émouvant, c'est que Jane Wyman, c'est une des époques les plus conservatrices aux États-Unis des années 50. Jane Wyman incarne une femme américaine comme il y en a des millions. Et je pense à toutes ces spectatrices qui sont allées voir le film, qui se retrouvent dans le rôle de Jane Wyman, et qui, par le biais d'un film, elles ont un happy end, ce qu'elles n'ont pas dans la vie. On sait que chez Douglas Sirk, les happy ends sont toujours plus ou moins fictif. Il le dit lui-même, même quand les fins sont heureuses, elles sont pessimistes.
Bah, de toute façon, oui, il le dit, comme c'est la fin c'est la mort. Donc il n'y a pas de fin joyeuse, c'est la fin.
Et beaucoup de gens ont dit, enfin certains analystes ont dit, oui, à la fin, Rocket Sun et Jane Wemless ensemble, mais quelque part, elle regrettera toujours le confort de sa vie que vous évoquiez. Donc ce sont toujours des fins très ambiguës et très douces amères. Il n'empêche, dans les années 50, pour une spectatrice américaine voir cela, je pense que ça a été un choc émotionnel assez fort. Et c'est un film qui a beaucoup marqué son époque. C'est un film très important dans les années 50.
Elizabeth?
Yes.
Elizabeth, why don't we get married?
It's going to rain.
Did you hear me?
There's nothing wrong with my hearing. It's my sense of humor. I don't have any about certain things.
I wasn't trying to be funny. As the wife of a soldier, you'd be entitled to 200 marks a month, plus a nice death benefit. Why make a present of it to the state?
I see.
And it's settled?
Certainly not.
That's what I like. Enthusiasm. But why not 200 marks a month?
I don't want it!
Guess you don't. I can't say that I blame you. It's a lousy 200 marks if you have to take me with it. I'm just
Don't say that.
All right, what would you prefer me to say?
That you understand.
I understand.
Do you? Because you don't have to offer me anything in order
That's not why I offered it to you. I simply wanted you to have it.
But don't you see that I can't accept it?
Don't bother to spell it out. You just don't want me, so I'm going to go with that.
Ernst. I want you so much. I ache.
Elizabeth.
J'imagine que les spectateurs qui ont découvert ce film en 1958, Le temps d'aimer et le temps de mourir, qui se passe donc en Allemagne pendant la guerre, pendant une permission d'un soldat du front de l'Est qui va rencontrer l'amour, les spectateurs se sont demandé « Mais qu'est-ce que Douglas Sirk vient faire ici ?» Alors, et quand on lit votre livre de Rossano, Un père sans enfant, évidemment, on comprend. Il s'agissait de filmer son fils, là, pour le coup, de raconter ce qu'aurait pu devenir son fils, dont il a perdu complètement la trace pendant la Seconde Guerre mondiale.
Absolument, c'est vraiment un film sur son fils. C'est un film bouleversant sans qu'on le sache, mais en sachant cela, ça le rend encore plus émouvant. Son fils, donc, a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Douglas Sirk essaye de trouver ses traces. Il sait plus ou moins qu'il est parti sur le front russe, mais il ne sait pas dans quelles conditions, il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et on ne l'a jamais retrouvé. En tout cas, Douglas Sirk ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et il décide de faire ce film qui est vraiment un film sur son fils. Il a dit qu'il voulait faire... Alors c'est un film évidemment contre la guerre. Il a dit qu'il voulait faire un film sur l'amour. Alors c'est un film, effectivement, il y a une histoire d'amour, très, très belle, très émouvante. Mais c'est aussi un film de l'amour que lui ressent pour son fils. C'est le film d'amour, c'est une lettre d'amour qu'il adresse à son fils en fait.
Il faut dire, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est allé en Allemagne. Il a cherché son fils, fait un voyage à Berlin en 1949. Il se dit aussi qu'il va pouvoir retourner en Allemagne. Pour lui, Hollywood n'était qu'une parenthèse.
Absolument.
Au départ, sauf qu'il constate que qui fait le cinéma allemand en 1949, ce sont les mêmes qui faisaient le cinéma allemand sous le nazisme. Donc, il n'est pas du tout le bienvenu. Et quand il va tourner ce film en Allemagne, en 1958, ça ne va pas se passer très bien non plus.
Non, les conditions vont être très difficiles. Il n'est pas bien accueilli par l'Allemagne. Tous les cinéastes de l'époque nazie qui continue à tourner, lui en veulent d'être parti. Et il y a quelque chose que je voudrais dire qui est assez étonnant et qui encore ramène à l'histoire avec son fils. Il y a un personnage dans le film qui est incarné par une actrice qui a été très célèbre sous le cinéma nazi, qui s'appelle Dorothea Wick. Elle tient un petit rôle dans le film.
Qui joue la méchante
nazie
qui a occupé l'appartement de l'héroïne.
Et cette actrice, ça peut pas être une coïncidence, a joué le rôle féminin principal du film le plus célèbre de Klaus, le fils de Douglas Sirk. Donc,
Tête haute, Johannes.
Absolument, qui est un film pro-nazi. Le cinéma nazi faisait peu de films de propagande, mais ça, c'est un film de pure propagande à la gloire des jeunes hitlériens. Et donc, Douglas Sirk engage cette actrice sur le tournage de son film, sur son fils. Et je trouve ça, quelque part, on est encore dans le mélodrame. On est autant dans le mélodrame dans le film que sur le tournage même du film, en fait.
Douglas Sirk racontera plus tard, je crois que c'est dans des entretiens avec son grand biographe John Hallyday, hein, celui grâce à qui on a appris l'existence de Klaus, mais après la mort de Douglas Sirk, oui, dans une version augmentée de ses conversations avec lui, que parce qu'il n'a pas maîtrisé le montage du film, hein, il est tombé malade, je crois, à ce moment-là, et qu'il aurait souhaité enlever toutes les scènes explicitement anti-nazis pour que le film le soit encore plus. C'est un paradoxe chez Douglas Sirk, mais qui lui-même, et je crois que c'est Daniel Schmidt qui le raconte dans un film d'entretien, là encore, que pour lui, c'était la version esthétique pour Hitler et sa bande qui était plus forte que le refus politique. Est-ce qu'on le sent, ça, Charlotte Garçon, dans le film tel qu'on le connaît, donc qui n'est pas forcément le film que Douglas Sirk aurait voulu?
Alors, il y a des dialogues très explicites, justement, très directs, sur ce soldat qui vraiment pose littéralement la question, à quel moment on devient responsable des actes qu'on accomplit sous les
ordres. Dans une scène avec Eric Maria Remarque, qui est l'auteur du livre.
Oui, tout à fait. Et ce même personnage joué par Remarque qui joue le professeur et qui dit dans cette Allemagne déjà en ruine, hein, c'est pas l'Allemagne d'après-guerre, on est pendant la guerre, mais c'est déjà Allemagne année zéro de Roberto Rossellini, tout est déjà en ruine et le professeur dit il faut qu'on perde la guerre pour que notre pays garde son âme. Donc il est déjà en train de penser à ce que l'Allemagne va devoir payer. C'est toujours des histoires de prix à payer, hein, dans ces films. Quel prix elle va devoir payer pour se redresser moralement de tout ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas s'il avait maîtrisé le montage, peut-être qu'il aurait supprimé ces dialogues aussi explicites et gardé la beauté éphémère de cette trame amoureuse qui s'ouvre, cette histoire, ce gouffre positif amoureux qui s'ouvre à ces jeunes gens qui ont toute la vie devant eux et qui, voilà, et ça se referme. C'est quand même, je trouve, l'un de ces films les plus pessimistes. Enfin, c'est terrible de placer comme ça le mélodrame intime, la beauté de l'histoire d'amour intime dans ce qui est mélodramatique, bien sûr, c'est l'histoire. L'histoire avec un grand H.
Et donc là, il ne triche pas, Douglas Sirk, d'Etlavzir, qu'il n'y a pas de happy end dans Le temps d'aimer et Le temps de mourir.
Santa Claus has many names in many different countries. In Holland, he is called Sinterklaas. In France, Saint Nicolas. In Sweden, he is known as Jule Tomte. In Germany, he is... Oh, can I do something for you?
Sorry to trouble you, miss, but I brought these for my little girl.
I'm afraid you made a mistake. I don't have any little colored girl in my class.
But they said 3B. This is 3B, isn't it? Why, there's Sarah Jane. There's my baby.
You mean Sarah Jane Johnson?
Yes, ma'am. I'm Mrs. Johnson. Sarah Jane, baby, I brought you yours. Sarah Jane!
We didn't know.
Sarah Jane, wait. Sarah Jane. Baby, wait. Sarah Jane. Sarah Jane, wait. Wait. Now, let me do it. Now, put your coat on. What do you want to do, catch pneumonia?
I hope I do. I hope I die.
Honey, nothing's hurt. You shouldn't have let them...
They didn't ask me. Why should I tell them?
Because that's what you are, and it's nothing to be ashamed of.
Why do you have to be my mother? Why?
Écoutez France Culture, plein d'air sur Douglas Sirk avec Denis Rossano, Charlotte Garçon et Fernando Ganzo. On va pas aller plus loin dans cet extrait parce que sinon on va tous se mettre à pleurer comme je vois les larmes monter aux yeux de Séverine Cassard, notre réalisatrice de l'autre côté de la vitre de la cabine. C'est cette scène tout à fait bouleversante du dernier long métrage de Douglas Sirk, Le Mirage de la Vie, film qui n'est pas avare en scène bouleversante. Une petite fille qui a toutes les apparences d'une blanche est dans une salle de classe, puis sa mère arrive, elle est noire, elle y est entrée très gentiment pour lui apporter ses bottines de pluie et la fille s'enfuit honteuse de l'apparition de sa mère. C'est un film, Charlotte Garçon, entre autres sur le trouble identitaire. C'est une des grandes questions aussi de Douglas Sirk. L'identité n'est jamais figée chez Sirk. Et puis c'est un film sur la honte, sur le renoncement au renoncement. Enfin, c'est un film extrêmement riche, Charlotte Garçon.
Oui, c'est sans doute son film le plus complexe et le plus riche. Et la question de la couleur dont on parle beaucoup tout pour les mélodrames amoureux qui précèdent, là prend une dimension bien sûr sociale. Enfin, c'est un film qui pose problème, je pense, à la censure dès les années 30, dès le film dont il est le remake.
C'est encore un film de Johnston d'ailleurs.
Voilà.
Image de la vie en français.
Et je pense que ce qui est beau dans le plus beau personnage, on pourrait dire classiquement dans le mélodrame, ça devrait être la mère Courage Noire, jouée par Juanita Moore, qui est en miroir de cette mère très ambitieuse jouée par Lana Turner, dans un rôle qui imite aussi son rôle d'actrice, de mauvaise actrice peut-être, mais de star dans la vie. Donc on a tout un jeu d'imitation et de reflets. Et Douglas Sirk dit qu'il aurait tourné ce film rien que pour le titre. Donc il embrasse complètement son titre d'imitation de la vie. Et effectivement, dans ce film, finalement, il me semble que le personnage le plus beau est sans doute ce personnage de métisse qui passe pour Blanche, parce que on ne sait jamais sur quel pied danser moralement, enfin avec qui être, à qui s'identifier dans le film. Et c'est sans doute avec cette petite fille qu'on s'identifie, même si sa mère lui rappelle qu'il vaut mieux assumer son identité. Mais au nom de quoi faut-il assumer son identité dans une société qui vous discrimine? Donc je trouve qu'on est, nous, spectateurs, transportés vers le mensonge, entre guillemets, un mensonge à faire, à avoir, à jouer, une performance à jouer pour pouvoir être libre, tout simplement. Et donc ce qui est beau, c'est que contrairement au film de John Stahl, il met l'accent sur ce personnage de petite fille, puis de jeune fille, qui passe pour Blanche et qui donc désigne la couleur de peau comme une fiction culturelle qu'elle est, que nous pensons aujourd'hui qu'elle est. Et il montre ça, il montre que c'est une imitation. Donc ça, je trouve ça à la fois très très fort politiquement et très beau aussi dans ce qu'il y a de déchirant dans le film.
Mais c'est vrai que c'est un procédé courant chez Douglas Sirk, qu'on l'observe dès les films allemands. Il va s'écarter du personnage principal, de l'héroïne ou du héros supposé, pour s'intéresser à un personnage qui pourrait être secondaire, mais qui est le personnage qui est déchiré, qui est incertain, ce qu'il va appeler le personnage médian. Hein. C'est toujours celui qui l'intéresse. C'est le dernier film de Douglas Sirk. Alors il est au sommet de son art. Mais il s'en va. C'est très curieux quand même. Il vraiment, c'est un film célébrissime dans l'histoire du cinéma. On pourrait se dire qu'il aurait pu faire des Mirages de la vie 1, 2, 3, ensuite, enfin, continuer là-dessus. Et non, lui, il ferme boutique, il retourne en Europe. Denis Rossano.
Oui, alors, Mirage de la vie, c'est 1959. C'est la fin de ce qu'on appelle le studio système. Et c'est vraiment l'aboutissement du mélodrame. C'est le mélodrame à son apogée. C'est un tournage très difficile pour Douglas Sirk, très douloureux. Il est, d'abord physiquement, il est malade. C'est aussi un tournage très douloureux à cause de l'histoire de Lana Turner. Il y a eu ce scandale colossal autour du meurtre de l'amant d'Lana Turner par sa propre fille. Et ça pèse énormément sur le tournage.
Ça explique aussi le succès du film.
Ça explique en partie.
Il y aura un intérêt assez morbide des spectateurs à aller voir Lana Turner jouer une mère indigne.
Absolument. Et d'ailleurs, ce que je trouve très étonnant aussi... Alors, c'est un film extraordinairement complexe, comme vous le disiez. Il y a plusieurs niveaux d'histoire, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Et métamorphiquement, c'est un film sur Lana Turner elle-même. Quelque part, c'est une biographie imaginée de Lana Turner. Et d'ailleurs, la fille de Lana Turner a dit qu'elle pouvait pas voir ce film tellement ça la dérangeait de voir. C'était tellement un reflet de sa propre vie avec sa mère. Mais c'est aussi un film sur Douglas Sirk et son fils. Moi, je trouve que la relation entre cette femme noire et sa fille, c'est un reflet de l'histoire de Douglas Sirk et de son fils. Et à un moment, notamment, cette mère a une phrase que je trouve bouleversante. Elle dit « Comment on dit à son enfant qu'elle est née pour souffrir ?» Et c'est une phrase que Douglas Sirk aurait pu dire plus tard à son fils, en fait. Et donc Douglas Sirk, le succès est colossal. C'est le plus gros succès pour la Universal à l'époque de tous les temps. Il a des propositions qui n'en finissent pas et il dit non. Il en a marre d'Hollywood. Il s'est jamais vraiment adapté à Hollywood. Il s'est toujours senti mal à l'aise à Hollywood. La culture hollywoodienne n'était pas pour lui. Il vivait d'ailleurs très à l'écart, dans la vallée, dans une petite maison qui n'était pas du tout à Beverly Hills. Et il rentre en Europe et il arrête le cinéma.
Sur le garçon.
Et c'est pas un hasard si le film se termine sur un enterrement en grande pompe, dont on a l'impression que c'est aussi pour lui, une façon de tout d'enterrer cette grande pompe, ces dépenses somptuaires des studios. C'est cette dernière scène de l'enterrement voulu par la mère noire qui a eu une vie plutôt pauvre et qui a tout misé sur la pompe funèbre finale, et aussi lisible du point de vue, disons, méta-narratif. Comme un adieu de Sirk, toujours avec cette ironie légère, enfin ironie subtile qui le caractérise.
L'ironie, et encore une fois, il ne se moque jamais, et au contraire, il a une empathie. Et la fin, qui est une des plus belles fins de toute l'histoire du cinéma,
qui n'a pas sangloté à Mirage de la vie, ne sait pas ce qu'est
exactement.
Le cinéma.
Et je trouve qu'il y a ces plans sur les visages de cette population noire. Et c'est comme si qu'ils redonnaient toute leur dignité au peuple noir, ce qui n'est du jamais vu dans le cinéma américain.
Tout en débarrassant l'intrigue du film, la famille centrale du film, de son dernier personnage visiblement noir.
Oui. Donc,
c'est absolument terrible parce que la fille qui passe pour blanche finalement rejoint dans la calèche la mère blanche, va être adoptée par elle. Et donc, malgré ce rassemblement et ce gospel chanté par Mahalia Jackson, finalement, le dernier personnage visiblement noir a disparu du film.
Et Douglas Sirk a dit que, de toute façon, la fin était un faux happy end, que si on reprenait l'histoire quelques jours plus tard, tout recommencerait comme avant, rien n'a changé.
Allein bin ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. O Herz, hörst, wie es klingt, in den Palmen singt und rauscht. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und blüht. Er weiß, für wen.
Merci Denis Rossano, on se quitte sur cette chanson de la Habanera, Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Le vent m'a raconté une chanson interprétée bien sûr par Sarah Leander et qui fut, grâce au succès du film de Detlef Zirk alias Douglas Sirk, un des tubes de l'année 1937 dans l'Allemagne du Troisième Reich. C'est une des choses qu'on apprend dans votre passionnant roman Un père sans enfant qui vient de sortir chez Alary Édition. La plupart des films de Douglas Sirk sont disponibles en DVD et en Blu-ray actuellement chez Elephant Film dans de très très belles copies restaurées, dont récemment, quatre films moins connus que ceux que nous avons abordés, mais tout aussi recommandables, Les ailes de l'espérance, Demain est un autre jour, Le joyeux charlatan et le très beau All I Desire. Et pour en savoir plus sur la Oufa, la major allemande des premiers temps de Douglas Sirk, je vous renvoie en podcast au plan large que nous lui avions consacré depuis la Berlinale. C'était le 24 février 2018. Dans les rétrospectives de rentrée, ne ratez pas la Cinémathèque française, celle consacrée à Arnaud Desplechin et Nicolas Rey, et puis pour les férus de cinéma expéditionnaire, celle de la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, Ciné-Expédition, c'est jusqu'au 24 septembre, rétrospective qui accompagne une exposition sur le même thème, Cinéma d'expédition des débuts à l'aventure de la croisière jaune, qui dure, elle, jusqu'au 30 novembre. Ça sera l'occasion de revoir sur grand écran des chefs-d'œuvre comme Nanouk l'Esquimau de Robert Flaherty, Grâce de Cooper et Chutzak, hein, quand les auteurs de King Kong étaient encore des aventuriers, ou le moins connu L'Enfer blanc du Pitspalou de Georg Wilhelm Pabst et Arnold Fanck, encore un cinéaste compromis avec le nazisme, film dans lequel joue une certaine Leni Riefenstahl, on ne s'en sort pas. Dans les salles, réédition depuis mercredi du Satyricon de Fellini et de Quelque part quelqu'un de la cinéaste récemment disparue Yannick Bellon, en attendant une rétrospective de ses films la semaine prochaine, et puis après une première sortie il y a 10 jours uniquement dans les salles équipées en Dolby, la nouvelle version inédite d'un film bien connu depuis maintenant 40 ans.
Vietnam. I'm Army Specialist Zach Johnson on AFVN. It's about 82 degrees in downtown Saigon right now, also very humid. And we have an important message for all GIs who are living off base from the mayor of Saigon.
Yeah!
And now here's another blast from the past going out to Big Sam, who's all alone in the mantle room out there with the 1st Battalion, 35th Infantry, and dedicated by the fire team at Odd Cage to their gloomy CO, Fred the Head. The Rolling Stones, Satisfaction.
All right! Work out, please!
I can't get no satisfaction.
I can't get no satisfaction.
Ah, le ski nautique sur la Nong River, ça vaut bien l'odeur du napalm au petit matin, hein, surtout sur le Satisfaction des Rolling Stones. Et un qui n'arrive jamais à être satisfait, c'est bien Francis Ford Coppola. Après la version qui avait été montée en urgence, mais qui lui avait quand même valu sa deuxième palme d'or, après celle pour Conversation secrète en 1974, après celle légèrement différente de 2h33 qui était sortie en France le 26 septembre 1979, il y a donc 40 ans, puis celle dite Redux de 3h22, sortie, elle, en 2001, avec notamment toute cette séquence dans la plantation coloniale française qui en épaississait très largement le contenu politique. Voilà que Coppola profite de la restauration de l'image et puis de la remise au goût du jour contemporain du son de son film pour proposer, pour ses 40 ans, donc une ultime version dite Final Cut, qui dure, elle, 3h02. Nouvel épisode, donc, d'un film rentré dans l'histoire du cinéma autant pour ses propres qualités que pour son tournage épique, pour ne pas dire complètement démentiel, qui avait été raconté dans un documentaire, hein, presque aussi passionnant que le film Au cœur des ténèbres, l'apocalypse d'un metteur en scène. Et puis, il y a un témoin de première bourre, le grand cinématographo Vittorio Storaro, qui avait fait l'image du film et qui vous a raconté à nouveau Fernando Ganzo dans le nouveau numéro de notre partenaire SoFilm, ce tournage incroyable, hein, Fernando.
Oui, absolument, sauf que moi aussi je veux revenir à... Il paraît qu'aujourd'hui on est marqué par la Deuxième Guerre mondiale quelque part, et je veux parler d'abord, avant d'arriver à Storaro, d'une série documentaire qu'on peut trouver dans les fonds des rayons de Netflix, que parfois on aime explorer, pour trouver des petites pépites. Là en l'occurrence c'est un documentaire de 2017 qui s'appelle « 5 hommes et une guerre », où en 3 épisodes on nous raconte l'engagement militaire, caméra en main, et de John Ford, de Frank Capra, de John Huston, de George Stevens et de William Wyler, plus ou moins connus, dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est une série où il y a beaucoup de clichés, beaucoup d'effets, c'est très scénarisé, c'est pas exactement la meilleure série documentaire du monde, mais évidemment le sujet est forcément intéressant, on apprend beaucoup de choses. Et en plus, ce qui est sympathique, c'est que Netflix, encore plus au fond dans leur bac virtuel, ils ont mis quelques de ces films comme La bataille des Midway de John Ford, Memphis Belle de Wyler. Il y a aussi des épisodes de Why We Fight de Capra, les Nazi Concentration Camps de George Stevens, ou ce bijou que j'aime beaucoup de la filmographie de John Huston qui est Let There Be Light, sur le suivi psychologique des soldats rentrés traumatisés sur sol américain. Et la série, en plus de ça, fait un parti pris qui laisse un petit peu perplexe. C'est que pour raconter le parcours de ces 5 cinéastes, ils les ont attribués individuellement 5 réalisateurs contemporains. Et savoir comment le choix a été fait par les créateurs de la série est étonnant. Parce qu'on retrouve Steven Spielberg qui va parler de William Wyler car il devrait avoir de l'empathie avec un cinéaste juif. Guillermo del Toro qui parle sur Capra parce que lui aussi est migrant. Il y a aussi Greengrass qui va parler de John Ford, on imagine par une proximité irlandaise quelque part, bon, c'est un petit peu marrant. Et Francis Ford Coppola, lui, parle de John Huston, oui, parce qu'ils appartiennent tous les deux à des grandes familles du cinéma, tout simplement.
Ils sont barbus tous les deux en plus.
Ça peut sembler un petit peu tiré par les cheveux, effectivement, ou par la barbe. Par les poils de la barbe. Mais dans les cas de Coppola, c'est pas sans intérêt, parce que Coppola va devoir beaucoup parler sur les blessures psychologiques, sur la réalité de la guerre, sur toutes les pathologies de ceux qui revenaient du front. Et ce qui fait un petit peu penser à toutes les légendes qui tournent autour d'Apocalypse Now, d'à quel point ce tournage a coûté la santé et mentale et physique du cinéaste, à tel point que peut-être c'est pour ça que he can get no satisfaction et qu'il continue à remonter le film, en l'occurrence là avec effectivement cette nouvelle version, ce nouveau montage qui nous a donné envie de parler effectivement avec Vittorio Storaro, chef opérateur du film, qui nous raconte un peu son expérience d'un point de vue de la lumière. Y comprendre aussi, 40 ans plus tard, effectivement, ce tournage reste aussi inoubliable. Et il y a en effet quelque chose dans son récit qui fait penser un petit peu à des expériences de la guerre. Surtout quand Storaro arrive sur le tournage et il se rend compte qu'il n'a pas du tout saisi les dimensions de la chose et qu'il dit « je suis arrivé avec les mêmes générateurs pour 1900 car pour moi, il ne pouvait pas avoir plus gros que 1900 », chose qu'on peut comprendre. Et donc son projet qui était de raconter un conflit des civilisations à travers le rapport entre la lumière naturelle et la lumière artificielle, il va devoir un petit peu se débrouiller, un peu comme un général sur le champ de bataille. Et donc, il va demander aux techniciens des effets spéciaux des lancers des fumigènes quand ils souhaitent avoir une telle couleur, un tel contraste chromatique, etc. Et donc, très vite, à l'entendre parler, on commence à penser justement à ce dont parle toujours ce cinéaste qui était parti filmer la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un fort sentiment de camaraderie avec les soldats, en l'occurrence avec les techniciens. Et Storaro dit avoir admiré énormément comment l'équipe américaine était capable de, par exemple, vider une énorme maison de la jungle pour filmer le bombardement des napalms, puis tout remettre à la place, tout replanter, ce professionnalisme-là. Et quand on l'entend, on comprend que Storaro est devenu un soldat du film. Et donc, est-ce que lui aussi, il en est revenu touché? Est-ce que la légende qui entoure Apocalypse Now du film comme un champ de bataille, comme dirait Samuel Fuller, est juste? Eh bien, il y a un peu de vrai, parce qu'à un moment du tournage, il y a un typhon qui a obligé l'équipe à prendre un congé forcé. Et celle qui raconte Storaro sur son retour de quelques jours à Rome amuserait beaucoup un psychanalyste, j'hésite. J'étais mal à l'aise, je ne pouvais parler à personne, je ne pouvais pas conduire non plus, il fallait que ma femme m'amène partout. J'étais comme Martin Sheen dans la chambre au début du film. Je n'attendais qu'une chose, être rappelé. Mais est-ce que Coppola sentait quelque chose de semblable? Toujours Storaro, hein, je cite. On a souvent dit que certains parmi nous étions devenus fous. Il y a du vrai, évidemment, mais je dirais seulement 30%. Le reste, c'est de l'exagération journalistique. Par exemple, Francis n'a jamais atteint le point de rupture. Il a toujours gardé le contrôle. Il a toujours su ce qu'il voulait. Donc, il faudra peut-être demander au même psychanalyste pourquoi continuer à remonter ces films 40 ans plus tard si on veut dépasser un petit soupçon d'opportunisme commercial. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Of our elaborate lives, the end of everything that stands, the end. No safety, no surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you
merci Fernando. Apocalypse Now Final Cut est en salle depuis le 21 août et sortira en Blu-ray dans sa version restaurée le 18 septembre chez Pathé. Pour en savoir plus, le nouveau numéro de SoFilm avec en couverture un Xavier Dolan, rien pessimiste, on ne peut pas gagner contre les haters, est en kiosque à partir de jeudi prochain. Et pour écouter Vittorio Storaro parler longuement de son expérience sur Apocalypse Now et de toute sa carrière, c'était dans Plan Large le 3 mars 2018 à vos podcasts. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son d'Ali Yaha. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Séverine Cassard. La semaine prochaine, premier volet d'une série de plans larges consacrés à Jean-Luc Godard que nous égrènerons toute cette saison. Nous y parlerons du Godard des années 60 pour commencer avec un critique et un historien, tous deux anciens rédacteurs en chef des Cahiers du cinéma, Alain Bergala et Antoine Debecq. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.